à tous dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. À l'occasion de la sortie en salle du premier film de la nouvelle trilogie de la planète des singes intitulé Le Nouveau Royaume, on en profite pour revenir sur le légendaire film de 2001 réalisé par Tim Burton qui a l'air d'avoir passé un sacré bon moment à le faire puisque selon ses mots, je préférais me jeter par la fenêtre plutôt que de m'imaginer de faire une suite. Pourtant, tout était parti pour être un chef-d'œuvre de science-fiction avec une équipe de rêve qui travaillait sur le projet, mais malheureusement parasité par un délai de production absolument aberrant, pouvons-nous plus de 20 ans après l'impact de ce film, le réhabiliter? C'est ce qu'on va entendre dans ce numéro. Je suis Luc Leludec et aujourd'hui, pour déterminer avec moi si oui ou non la planète des singes de Tim Burton mérite la shitlist, je suis accompagné de Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop. Salut Manu.
Oui, bonjour.
Et Karim Berda du podcast Le Début de la Fin. Salut Karim.
Salut et big up à tous les gens Romeu Fontain ou qui connaissent Font Romeu. J'étais absolument pas prêt ce soir à toucher des gens par rapport.
Ah, il est heureux. Il est heureux, ouais, ça, nous la... ça nous fait.
S'il y a des Érimurois,
je peux potentiellement repartir avec l'accent du sud au bout d'un moment, tu vois, parce que je veux me sentir un peu la catalanerie qui va revenir, tu vois, donc te parler des singes et tout, ça va être bien, tu vois. Bonsoir tout le monde.
Ah, ça va être bien. Ouais, tu nous feras la roco comme ça à la fin. Alors, je vais vous poser la première question déjà, et je vais commencer avec Karim. Votre relation à la franchise La Planète des Singes, donc le livre et les films ou les séries, les jeux vidéo, bref, tout ce qui a été dérivé.
Relation qui avait pas mal commencé jusque vraiment en fait le film de Tim Burton. J'ai lu mes versions collégiens, donc j'ai lu avec très peu de souvenirs La Planète des Singes après avoir vu le film La Planète des Singes et avoir bouffé sans jamais m'en souvenir parce que c'était un souvenir qu'on avait avec Manu tout à l'heure. La série, je sais pas sur quelle chaîne a été diffusée, j'imagine la 5, un truc comme ça, peut-être.
J'aurais dit M6, moi.
Ah, peut-être M6. Je sais pas. Mais c'est quelque chose qui était assez présent dans ma vie, en vrai. Pas non plus au point vraiment de se considérer comme fan ensuite, mais ça fait vraiment partie de mon ancrage culturel. C'était un peu mes premiers pas dans la SF aussi, quelque part. Et est arrivé La Planète des Singes de Tim Burton en 2001, qui, à terme, alors c'est pas que ça, mais parce que ça s'est enterré aussi, mais ça m'a enterré. Je veux dire, La Planète des Singes, ça avait disparu de ma mémoire depuis. Jusqu'à la trilogie origine, jusqu'à Suprématie de Matt Reeves. Mais voilà, donc un truc qui était, bah, je vais pas dire important, mais voilà, qui faisait partie de ma culture de SF, un gamin et un peu ado, bah, ado, et ensuite plus rien jusqu'à presque les années 2010 et de nouveau ce soir pour un bon retour dans les années 2000.
Alors encore un excellent retour dans les années 2000. Manu, de ton côté, la relation avec La Planète des Singes?
Moi, j'ai jamais lu les bouquins, j'ai lu, je pense, des comics, mais qui bon, pas forcément marqué, mais j'ai vu à l'époque, dans ma jeunesse, le premier film, et je pense peut-être au moins une ou deux suites, mais je les mélange probablement avec la série télé, en effet, puisque j'ai plus de souvenirs de la série télé que du reste, je pense, de l'époque. Et celui dont on parle aujourd'hui, je l'avais vu sorti en DVD, j'avais pas du tout aimé, mais sinon, j'ai pas un attachement spécial, si ce n'est que j'avais aimé le reboot. Les origines avec James Franco, j'avais bien aimé le film, pas du tout aimé la suite, et apprécié la
Suprématie, ouais.
Donc, globalement, mi figue, mi raisin sur l'univers, j'aime beaucoup le principe de base, mais en fait, c'est le genre de film, j'ai envie de dire comme 2001, mais comme tous les grands films qui sont sortis avant notre naissance, c'est le genre de film où tu découvres plus tard l'analyse qu'il faut en faire, même si tu as déjà vu le film, sans avoir les outils pour le comprendre à l'époque. Mmh. Et au final, tu ressors plus de l'analyse que de revoir certains des films derrière, parce que bah, du coup, tu...
Oui, d'accord. Pas le ressenti, tu veux dire, le ressenti, tu l'as pas, quoi. Enfin, ouais, c'est ouais. Compliqué.
Mais ouais, et puis en plus, le film original, c'est un film très ancré dans son époque, et comme le livre, c'est des critiques de la société de l'époque, donc on va en reparler sur celui de 2001, justement.
Après, moi de mon côté, le livre, je l'ai lu, et c'est un des préférés. Pourquoi? Parce qu'il fait moins de 200 pages, et ça me fait plaisir. J'ai pas le temps pour ces conneries, moi. J'ai pas le temps. Oh, non, sans déconner. Non, mais par contre, le livre est vraiment très très bien. Je l'avais lu, moi, de façon un peu random, pour essayer de me faire un peu une base littéraire, et c'est vrai que pour le coup, pour un film, pour un livre de SF, c'est extrêmement simple à lire. En fait, il est extrêmement simple. Et c'est vrai que c'était plus une pierre boule, on essayait de faire plus une espèce de parodie, parce que ça se fout, enfin, entre guillemets, c'est une espèce d'histoire, en gros, où l'humanité est tellement, flémarde et un peu conne, qu'en fait, on en a un tel point que c'est les singes qui vont reprendre le contrôle, quoi. Donc on est un petit peu. Vous voyez, la meilleure adaptation en fait de Pierre Boulle, La Planète des Singes, c'est Idiocratie. Voilà, je vais me faire tuer pour dire ça, mais voilà. Et après, le film de 68, ouais, bah, je suis comme Manu, en fait, c'est que c'est un excellent film. Et c'est vrai qu'en fait, on a l'esprit d'analyse plus que le ressenti, parce que je pense qu'effectivement, quand il est sorti en 68, Le twist, parce que le twist de fin, c'est le plus grand twist de l'histoire du cinéma. Enfin, c'est un truc qu'on ressort souvent, en fait. Le truc où Charlton Heston est devant la Statue de la Liberté sur la plage, il fait « Oh non, you blew it !» Non, non, non. Et tu vois, il est en train de gueuler.
Damn you all,
tu vois. Ouais, voilà. Mais c'est que le truc, en fait, effectivement, bah voilà, c'est un truc, nous, qu'on connaissait à la fin, en fait. On connaissait un peu ce que ça voulait dire. Et quand on revoit ce film-là, bah, on se dit « Bon, bah, c'est de l'analyse. » Mais ça reste un très bon film. Après, le reste, les suites... Parce qu'il y a eu 5 films hein, dans la période des années 60-70.
Ouais, j'avais au moins suivi pas... 4, mais...
ouais, je ne suis pas... 5 au total, du coup. Parce que je crois que c'est ça, hein, c'est 5 au total. Et, mais effectivement, j'ai pas... non, j'ai pas eu envie d'explorer les suites, quoi. Très
non,
clairement.
C'est vachement moins intéressant dans la...
Ouais,
dans
ce
qu'il y a en retiré dans l'analyse, quoi. Mais en
et
plus,
trilogie...
pour rebondir sur,
vas-y.
Sur la destruction de l'humanité, comme tu l'as dit, le premier film, le rapport à... À la peur du nucléaire, de l'apocalypse nucléaire. Nous, on est nés post... Enfin, oui, si, post-Tchernobyl tous, en l'occurrence. Peut-être pas toi, quand même, j'ai un doute. Mais on
c'est
a
pour ça que je fais moins d'un match.
Tchernobyl, post un paquet de trucs. Enfin, la peur du nucléaire est beaucoup plus concrète et on a vu vers la semaine, quoi. Donc, en plus, c'est plus forcément la même actualité.
Je suis d'accord.
Ah, c'est vrai, en plus. Oui, c'est ça, oui, c'est le contexte. Ouais. Et puis, la nouvelle trilogie qui présageait un peu le Covid... était pas mal. Moi j'avais beaucoup apprécié un peu moins, je pense comme en globalité un peu moins le 2 effectivement qui était un peu plus faible, mais Suprématie j'avais adoré avec le Woody Harrelson et puis
c'est le dernier du coup, c'est le troisième.
Ouais, c'est le troisième Suprématie et c'était vraiment très bien, je trouvais qu'en plus en termes de FX, en termes de mise en scène, c'était assez bluffant. Moi je trouvais que par exemple le 3 que j'ai trouvé vraiment très bien, c'était un peu la grande évasion des singes, quoi.
Je trouve que les 3 au niveau des FX et de la mocap sont pas mal, hein. Les 3
c'est
vraiment,
mais
le deuxième
c'est,
que j'aime
c'est
pas
encore...
statistiquement,
mais c'est vraiment dingue, le 2 et le 3 sont vraiment des bijoux en termes de FX. Et le truc c'est que j'ai vu la bande-annonce que du coup quand je vais au cinéma on se tape en ce moment la bande-annonce La Planète des Singes.
C'est quoi, c'est War for the Planet of the Apes, un truc comme ça.
Ouais, alors le titre français en tout cas c'est Le Nouveau Royaume et ça fait flipper, ça fait vraiment flipper, hein. On est en termes de VFX et tout, c'est vraiment plus du tout le... Tu sens qu'il n'y a pas la même équipe de prod, c'est plus du tout le même budget à mon avis aussi, parce qu'ils ne savent pas vraiment si ça va être rentable ou pas, mais combien même. Ouais, ça fait flipper. Ça fait vraiment flipper en termes de rendu des singes et tout. Tu te dis que t'as eu un downgrade, quoi. Terrible.
Et du coup, c'est de la mocap
voilà.
Ou c'est de la génération CGI?
Et je crois qu'en fait, c'est de la génération.
Ouais, ça, c'est la tristesse du truc. C'est ce qui faisait la force, hein, des trois de Matrix.
Bah, d'avoir des vrais, ouais, des jeux, enfin, des tarés, j'ai envie de dire, qui s'amusaient à imiter les singes, quoi. Mais là, je crois que non, il n'y a pas. Et ni de prosthétique comme tu pourrais avoir chez Tim Burton. Donc ouais, c'est assez flippant, c'est vraiment assez flippant, et pour le coup c'est, je sais pas qu'est-ce que ça va donner, j'ai pas encore vu le film, quoi. Et puis juste pour enchaîner, avant de mettre la bande-annonce, c'était votre relation à Tim Burton. Je sais plus si on a fait, parce qu'on a, c'est le deuxième Tim Burton je crois qu'on fait dans l'émission, ce qu'on avait fait
Sweeney Todd,
c'était ouais, si Sweeney Todd, on avait fait Sweeney Todd qui avait fini dans la shitlist.
Ouais, grave, oui.
À raison. A raison. Je sais pas si vous l'avez platiné ou pas, Tim Burton, vous de votre côté.
Non, pas platiné, moi, en l'occurrence. J'ai vu, en l'occurrence, il y a un certain nombre de films qui ont une mauvaise réputation de base, bah, j'ai pas testé, en fait.
Du coup, tu y vas pas. Ouais, voilà, c'est ça. À part si on t'y oblige à cause d'une émission.
Bah, c'est Sweeney Todd.
Ouais, voilà, par exemple. Et toi, Karim, de ton côté.
Alors, je dirais pas platiné, mais j'avais quand même fait quasiment l'intégralité jusqu'à Dark Shadows. Voilà. Donc, de Beetlejuice, le petit court-métrage qu'il avait fait avant, jusqu'à Dark Shadows. Donc, il y a du.
Il y a trois, il y a aussi. Vous l'avez pas vu, Pee-wee Big Adventure?
Si, voilà, c'était ça que je cherchais. Mais ça, je l'ai.
Alors, ça, c'est un truc
que j'ai vu
film,
tard, hein. Genre dans l'idée, parce que j'ai eu l'idée à un moment de platiner Tim Burton. Mais en fait, moi, j'ai été Tim Burton Zeus réellement. Et au bout d'un moment, Dark Shadows m'a buté, en fait. Vraiment, parce que je me suis rendu compte, en fait, qu'il y a, ça avait pas. Enfin. Je me suis rendu compte que j'avais tort, en fait, que je me méprenais et que je voyais dans le personnage de Tim Burton ce que j'avais envie d'imaginer et qu'en fait c'était pas du tout ça.
Moi je pense qu'on a perdu le soldat Tim Burton depuis Charlie la chocolaterie, je pense. Hein.
Ouais, mais même en fait.
Moi j'ai un aveu à faire, mais je l'ai peut-être déjà dit, que j'aime bien Miss Peregrine. Je fais partie des 5 personnes.
Tu sais que Manu, c'est le seul film de Burton que je n'ai pas vu. Hein.
C'est vrai?
Ouais, c'est le seul, j'ai presque platiné, et c'est vrai,
c'est
que c'est vraiment
Burton,
le
seul. Y a rien, je trouve, qui est à chier au point de
Oh, t'as pas vu Dumbo.
Bah peut-être.
Non, mais t'as pas vu Dumbo. Pas vu.
Ouais, peut-être. En tout cas, jusqu'à Dark Shadows, ça reste au pire consommable, parce que voilà, le mec, il sait faire quand même des trucs, même si c'est pas ouf, il sait faire des trucs. Mais ouais, donc un repenti de Burton, en fait, et j'ai presque limite de la peine pour lui, au bout d'avoir, parce que je me dis que le mec, depuis Batman, on lui a incombé un rôle qu'il a une image, qu'en fait, il battait peut-être les couilles, en fait. Ce délire de les gens, enfin, je sais pas, peut-être la génération de 80, entre les années 80 et 90, il y a eu beaucoup de monde qui était à fond sur Burton, il a un univers, Burton, il a une ambiance, Burton machin. Et c'est pas faux, hein, je veux dire, c'est le mec qui avait des visuels, bon, à la base, c'est un animateur, ouais. Tu vois, je veux dire, c'est effectivement, il a une patte graphique, je dis pas quoi. Mais de là, tu vois, tu sais, à vouloir lui incomber une espèce de. Vraiment, tu vois, tu sais, de bibliothèque cinématographique, d'identité, machin et tout, je trouve ça un peu compliqué. En fait, j'ai l'impression qu'on demandait beaucoup trop à ce monsieur, en fait, et que vraiment. Alors, c'est peut-être moi qui me trompe, hein, peut-être qu'il nous a tous bien niqué, mais voilà, c'est un gars de la Warner, il fait des films, tac, il a effectivement une patte graphique, je dis pas quoi. Et je pense qu'il doit s'éclater plus à créer des trucs dans son coin, tu vois, qu'à.
Ouais, il a un univers, mais il est surtout bien entouré par une équipe créative aussi qui est derrière, qui sont très bons. Hein. Il y a Bo Welch et tous les trucs comme ça, Stan Winston.
Enfin, c'est, mais il y a un moment, je pense que la Warner.
Les bons gars, mais c'est qu'il les a perdus au fur et à mesure, quoi, en fait. Ça, aussi, ouais. Ça peut se ressentir.
Mais la Warner a vraiment pris Burton, vraiment. Enfin, ou de vraiment, c'est juste. Moi, je...
En otage.
Ouais, hein. C'est un argument de vente, en fait. Et moi, je me suis fait avoir pendant très longtemps. En plus, hein, j'ai été syndrome de Stockholm. Non, même pas. Non, je me suis vraiment fait avoir pendant très, 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 très longtemps. Mais il y a des choses que j'adore toujours. Vraiment, j'ai toujours. J'aime. Ses premiers films, Beetlejuice, j'aime toujours beaucoup parce que c'est des films d'enfance qui m'ont marqué. Edouard Manargent, c'est pareil. J'avais déjà dit que dans mes films de super-héros préférés, Batman le défi en faisait partie parce que c'est un film que j'aime beaucoup. Voilà, Big Fish qui retire ce que les gens veulent dire autour dessus à consommer. Je trouve que c'est pas dégueu en vrai, c'est juste que j'en peux plus des gens.
Non, Big Fish, j'aime bien aussi.
Le film de la maturité, machin. Oh, ça va.
Le Ciao Pantin de Tim Burton.
Ça va, voilà, tu vois. Donc ouais, dans relation avec Tim Burton, à la base, pas mal, et je peux prendre vraiment plaisir à reconsommer ce qu'il a fait dans les années 90 jusqu'à 2000. Vraiment, tu vois, cette décennie-là. Et c'est complètement biaisé, parce que c'était le cinéma de mon enfance, très objectif.
Et on va voir si La Planète des Singes est le cinéma de ton enfance, Karim. On va mettre la bande-annonce direct, histoire de se mettre dans le bain. Hey, avant de lancer la bande-annonce, sachez que vous pouvez prolonger l'expérience Shitlist en nous soutenant sur Patreon, en souscrivant au Shitlist Plus à 5€ par mois. Cela vous permet d'accéder à tous les épisodes exclusifs de Shitlist, en plus des épisodes en avance, sans pub. Lien en description de l'épisode.
Un jour, on racontera une histoire. Une simple fable, diront certains. Celle d'un être humain venu des étoiles qui fit basculer notre monde.
On va s'écraser ! Mayday ! Mayday !
Dans un monde où la liberté n'existe plus.
Où je suis ? Qu'est-ce qui se passe ici ?
Portez-les ! Et nettoyez-les !
La violence fait loi.
On se lève en présence de son maître.
Les puissants règnent par la terreur.
Et tant que vous y êtes, ces bestioles ont une âme.
Il y a une âme là-dedans.
Ce que nous faisons aux humains est répugnant.
Comment ils sont devenus comme ça ?
Comment tu voudrais qu'ils soient ?
S'ils te voient dehors, ils te tuent.
Si on reste, on est déjà mort.
Tu viens de quelle tribu ?
L'armée de l'air américaine. Et j'y retourne.
Des humains se sont échappés.
Comment on sort de la cité ?
Je vais te montrer.
Ils ont des singes avec eux,
déclarer la loi martiale.
Nous sous-estimons cet humain.
Où ils sont passés ?
Les rumeurs gagnent les villages. Tout le monde veut voir cet homme qui défie les singes.
Toutes les divisions, préparez-vous à combattre !
C'est fini, personne va venir.
T'es venu, toi ?
Donnez l'ordre de marche !
Amenez-moi l'homme de l'espace.
Tuez-les tous.
La Planète des Singes, sorti en août 2001, produit par Richard Zenuck pour le compte de la Fox, avec un budget de 100 millions de dollars, librement adapté du roman de Pierre Boulle du même nom, sorti en 63. Script écrit par William Broyle, un ex-militaire du Vietnam qui a écrit Solo Monde et Haute Voltige, et écrira par la suite Jared, Lawrence Conner et Mark Rosenthal, qui ont écrit pour les films Superman, Star Trek et quelques épisodes des Sopranos. Réalisé par Tim Burton et épaulé à la photo par le français Philippe Rousselot, le schlepp de Bertrand Billet, Jean-Jacques Bénix et Diane Curis, qui finira avant sa retraite, a éclairé les animaux fantastiques, d'ailleurs. La planète des singes, selon Burton, nous raconte l'histoire du capitaine Leo Davidson, interprété par Mark Wahlberg, un astronaute qui s'écrase sur une planète inconnue après avoir voulu sauver un singe perdu dans le cosmos. Capturé par des singes évolués, il découvre que ceux-ci dominent la planète et réduisent en esclavage les humains qui s'y trouvent. Léo décide alors de s'enfuir pour reprendre contact avec la station spatiale sur laquelle il était stationné, mais également pour retrouver la civilisation humaine qui domine les singes sur Terre. Karim, de ton côté alors, cette expérience, la planète des singes version 2001.
Dur, c'est un film que j'avais vu sorti ciné, je l'avais vu vraiment dans le mois d'août 2001. Je l'avais vu ciné, je l'avais peut-être vu une, deux, trois fois à côté dans les années qui suivent, tu vois. Et j'en avais gardé un souvenir genre en mode c'est pas ouf, mais les gens le détestent pas pour les bonnes raisons. Et à la base, je pensais, avant de re-regarder le film ce soir, que mon argumentaire, ça allait être « Oui, bah, le film, ça va, c'est juste un film qui se veut un peu bancal sur le scénario, mais qui fait des efforts, machin et tout. La seule raison pour laquelle vous aimez pas le film, c'est que, soi-disant, c'est pas un film de Tim Burton. » Alors, je vais complètement revenir sur cet avis. J'ai revu le film hier, et le film est nul. Hein, voilà, très honnêtement.
Oui, clairement.
Le film est nul pour plein de raisons. Hein. Déjà, un objet de consommation, c'est les deux heures sont un peu longues. Alors, je vais quand même dire les trucs d'office, parce qu'il faut quand même dire les bonnes choses avant de dire la merde, mais le film a des points forts. Factuellement, je mettrai en tête de liste quand même les maquillages et les costumes. 2001, oui. C'est cool, en vrai. Il y a vraiment des efforts qui sont faits, c'est super crédible. Les singes qui sont réellement au centre du film, parce que c'est eux qui ont des lignes de dialogue, parce que Marquis, Léo, Marc, Max Payne avec les singes, parce qu'ils jouent exactement de la même manière que dans Max Payne, ne sert à rien, les autres humains n'ont pas de ligne de texte. Bref, le maquillage sont bien faits, les décors, même si ça pue le studio, en vrai c'est l'effort du dur, il y a quand même des trucs qu'on quand même, je trouve, voilà, qui ont de la gueule, qui sont assez organiques, ainsi de suite. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que je garderai le seul vrai élément positif plus tard, pour la chronique, mais après le film est nul, parce que déjà en construction, c'est archi chiant, on est sur un film qui est ultra plan-plan en fait, hein. Où t'as un gars qui va tenter de survivre et à la fin ça va être une bagarre finale qui se terminera sur une tentative de désespoir pour repomper ce qu'on a vu en 68 qui marchera pas. Le cast tu divises deux parties, tu prends les humains, voilà, on aurait mis des plantes vertes, ça aurait été pareil, c'est très très compliqué à vivre. Et à l'inverse, on a justement le cast simiesque, alors qui veut justement, c'est là qu'il y a toutes les stars, hein. On a Tim Ross en General Tate, on a la femme de Tim Burton, Helena Bonham Carter, dans le rôle il y a...
Pas encore.
Bon, qui va devenir, voilà. Sur ce film.
C'est suite à ça.
Femme en puissance, Tim Burton. On a Michael Clarke Duncan aussi qui joue l'un des gorilles. Voilà, donc on a un gros cast. Alors, ils font vraiment bien.
Ah si, oui, attends, au cast, Paul Giamatti.
Paul Giamatti.
En vrai, il faut...
Qui est reconnaissable, il est incroyable.
Alors ça, c'est l'une des forces, parce qu'on est sur du pur maquillage et on arrive à reconnaître, alors, grâce aux yeux énormément, et même sur le dessin.
Grâce au jeu, ouais.
Même le dessin des maquettes, enfin des maquillages qu'ils ont fait,
oui.
Vraiment, il y a un truc qui colle avec le regard, avec la personnalité du personnage qui est fait et l'acteur qui va derrière, tu vois. Ils en font des caisses. D'un côté, c'est vachement bien, parce que tu sens ce côté vraiment animal sauvage et tu sens des gens qui s'amusent, donc ça, c'est cool. Par contre, ça me pose un gros problème, en fait, c'est que il y a un moment, il y a un truc que je ne comprends pas dans ce film, c'est pourquoi les singes qui sont censés être relativement évolués, qui sont capables de récupérer des ballons de basket, d'écouter la radio, de se mettre des caisses avec des blousons Shivers sur des scans, quand même, je veux dire, ça très très drôle.
Ouais, c'est fou.
Comment ces singes-là qui font tout ça vont être à la fois encore autant des singes parce qu'ils ont un comportement de singe tout le temps, ils sautent partout, ils grimpent aux arbres, ainsi de suite. Je trouve ça très incohérent. Oui. Et je trouve que la scène qui illustre l'incohérence, il y a un moment du film, je pense, c'est le moment du film, c'est genre.
C'est l'eau?
Alors déjà, j'y reviendrai plus tard, je te laisserai l'eau, si tu veux, vas-y, je te laisse l'eau, parce qu'il y a trop de choses.
Non, vas-y, garde-le, j'ai d'autres trucs.
Mais en vrai, il y a une scène, l'un des tiers les plus, enfin, dans peut-être l'un des moments les plus cools du film, où tu vas voir, en fait, la cité des singes, et tu vas voir des singes vivre, en fait, c'est clairement des humains avec des tronches de singes qui vivent des situations d'humains. Et t'as une scène où t'as Dominique Strauss-Kahn des singes, factuellement, qui est dans sa chambre, avec sa femme singe, enfin, oui, singe, qui a des boobs comme ça, qui arrive et qui lui fait une petite danse genre érotique, orientale, on va dire ça comme ça, Nia. Donc ok, tu fais ok, pastiche, parodie, c'est marrant. Et ensuite, elle se jette sur le lit, elle fait des gros mouvements de singe en montant sur le lustre, tu vois. Et là, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, je veux dire, il y a eu une mécompréhension de ce que vous vouliez faire. Vous aviez voulu donner un côté très anthropomorphique, vraiment poussé, et même reproduction sociale, tu vois ça. Et à côté de ça, et c'est un autre propos du film, tu les rabaisses juste à des niveaux de singe de cirque, en fait, tu vois. Et bah, ça, c'est un autre problème du film où les singes, en fait, le film se veut libérateur, mais plusieurs fois dans le film, en fait, les singes vont naturellement se remettre en cage. Il y a quand même une espèce... Et pourtant, c'est difficile de me trigger là-dessus, mais le film se veut quand même, 20 ans plus tard, un peu limite spéciste. Bref, je me laisserai tout ça. Il y a plein de trucs incohérents avec les singes. Je reparle de l'eau, oui. Alors, j'ai une question. Les gens, peut-être que je ne sais pas, mais est-ce que les singes ont un problème avec l'eau? Est-ce que les singes ne savent pas nager? Parce que ça m'a posé... Je me suis posé cette question, je me dis, c'est soit c'est des héros de Dark Souls, soit... Il y a un bug dans la matrice du genre la régression évolutive, tu vois. Donc, il y a plein d'éléments de scénario comme ça qui rendent le film absolument pas tenable. En rythme, il est chiant. Il y a vraiment un moment du film, je veux dire, avant, parce que forcément, c'est un film qui va prendre tout le spectre d'une histoire d'aventure, hein, donc la découverte, machin et tout, jusqu'à l'affrontement final, puis la résolution. Le moment entre la fuite de chez les méchants à l'affrontement final, la préparation, un enfer. Hein, ça doit...
Ah, c'est long.
En plus, c'est pas ouf. C'est un enfer en ressenti, parce que ça dure 20 minutes. Hein, je veux une demi-heure. C'est pas. Hein. Ouais, quoique, tu me diras déjà une demi-heure.
Ouais, enfin, ça dure 2 heures en tout, donc c'est déjà un quart du film. Enfin,
le film
ça fait beaucoup.
Le film donc, a vraiment des problèmes de rythme, donc t'arrives pas à t'accrocher. Réellement, c'est super compliqué. Et surtout, il essaye, et parce qu'après, je en laisse un petit peu, mais il essaye quand même, tu vois, de reproduire à certains moments, de reprendre l'idée un peu SF. Post-apo, machin et tout. Enfin, je sais pas si post-apo, mais SF, que peut être la planète des singes avec ce côté critique sociétale. Bon, c'est foiré parce que t'as l'impression qu'il critique la société de Batman. Mais de deux, en plus, c'est super. Super moralisateur en étant pas dans son propos et ça gêne un petit peu, en fait, parce que je trouve le film, comme je disais, effectivement super. Super pas cool vis-à-vis des animaux. Hein, ils se font traiter de vieux macaques tout le long. Mais.
Oui, mais est-ce que t'as compris quelque chose?
Non, j'ai rien compris.
Ça parle
rien
de racisme.
Ouais. Ouais, non, en fait, je vais dire pourquoi j'ai arrêté ma compréhension du film, parce que le film ne peut pas être compris, parce que le film fait un truc extraordinaire. Le film, il y a une scène de bataille. Donc la scène de bataille, à bout d'un moment, les singes sont plus forts que les humains, la logique veut qu'ils se fassent péter la gueule, donc il va bien falloir qu'un événement extérieur arrive. Donc, on arrive à un truc que j'y... Il y a un cri de Willem, et 5 minutes après, il y a un Deus Ex Machina, que je vais appeler un monkey
incroyable.
Ex machina, parce que factuellement,
machina.
Un sage...
C'est un Deus Ex Monkey.
Un Deus Ex Monkey, en vrai, mieux. GG Manu, Deus Ex Monkey. Factuellement, après un bruit, une lumière blanche dans le ciel où tous les personnages vont lever les yeux vers celui-ci, une capsule va descendre avec un singe qui va être appelé Simos, je ne sais plus, qui est factuellement dans la réalité de cet univers-là, le Jésus dans la religion des singes. Donc on a c'est quoi, c'était un Deus Ex
la prophétie
Ex Monkey.
C'est génial, ça m'a plus gros fourré pendant une demi-heure. Donc en fait, même la fin, je crois que je l'ai zappé, hein, sur le coup, tu vois, c'est et mine de rien, je finirai là.
Tu sais que moi je me suis posé la question de si c'était volontairement une référence artistique, tu vois, parce que le Deus Ex Machina, historiquement, c'est vraiment l'image dans le théâtre grec. Du truc qui descend du ciel comme ça au milieu et qui est un dieu, du coup. Et du coup, c'est vraiment la même image. Vraiment, je me suis demandé si c'était une référence.
Oui,
c'est
construit.
Moi, j'ai envie de me dire que Tim Burton, qui a détesté faire ce film à terme, qu'il a mis ça pour en mode suicide artistique. Je veux dire, c'est à l'école de cinéma, on t'apprend que le Deus Ex Machina, c'est pas bien. Je veux dire, c'est donc, est-ce que c'est pas une tentative de sabotage? Voilà. Donc voilà, donc la planète des singes 2001, 20 ans après, non. Voilà, si vous avez gardé des bons souvenirs de tolérance, vous avez tort, objectivement, parce que. Même si le film il réunit plein de bonnes intentions à certains moments, non, ça ne marche pas, ça ne marche réellement pas. Donc voilà, je vous déconseille très fortement de vouloir raviver votre femme de Burton avec ce film-là, ça ne marchera pas. Là, je marquerai là-dessus, je te
parle. Ça ne marchera pas du tout. Donc on peut considérer quasiment que le point de chute de Burton, c'est en fait la planète des singes. Alors, j'ai envie de dire, c'est presque pas de sa faute, mais on y reviendra après. Enfin, je dis presque. Hein. Il ne faut pas non plus tout pardonner. Alors après, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué un truc, c'est encore la fin. C'est vrai que la fin, c'est un truc qui a fait jaser. Donc en gros, c'est quoi? C'est quand Mark Wahlberg quitte la planète grâce au Deus Ex Monkina. Il récupère la petite capsule, puis il va se barrer sur Terre pour essayer de chercher de l'aide, en fait, en gros. Sauf qu'il arrive, en fait, sur Terre, mais dans un univers, soit un univers parallèle, soit encore trop avancé dans le temps, peut-être, un truc comme ça.
Non, c'est
et il arrive...
que, enfin, déjà, ça n'a pas de sens, hein, mais a priori, c'est plutôt Tade qui est revenu plus loin dans le passé.
Ouais, je pense que c'est ça,
modifié le passé.
La fatalité de celui-là. Parce que je pense qu'il a voulu mettre, c'est parce que voilà, la fin de la planète des singes de 68, c'est vraiment cette notion de fatalité, école de cinéma, ce que tu veux dire. Et je pense qu'il a voulu le faire, mais différemment, à sa manière, je sais pas, mais en tout cas différemment.
Mais non, c'est parce que c'est la fin du livre, en fait.
Oui,
la
oui.
fin du livre, c'est, il essaie de se barrer, il revient sur Terre, mais en fait, sur Terre, finalement, c'est la même merde. Mmh. C'est les singes qui ont repris le contrôle.
Moi, je pense, voilà. En fait, ouais, ou alors, qu'il y a genre il s'est barré, mais il allait trop loin dans le futur et que mine de rien, Tide a quand même réussi à sortir. Et à, tu vois, c'est genre en fait tout ce qu'il a fait. Parce que faut oublier aussi un truc que j'ai pas dit, mais factuellement, encore une fois, ce film, c'est la vie de Brian chez les singes. C'est pareil que dans Monty Python, t'as un mec qui débarque, il est là, et t'as tout le peuple qui le suit, qui le prend pour un élu, alors qu'il leur fait, les gars, non. En vrai, moi j'ai mon vaisseau, je me casse. Je veux dire, c'est, non, mais tu vas nous sauver.
Je veux rentrer à la maison. Ouais.
Voilà. Démerdez-vous. Démerdez-vous bien.
Et je pense que c'est ça l'idée, tu vois, c'est que malgré tout, il soit barré, machin et tout, et qu'en fait, bah, l'histoire aura suivi son cours, que Tide aura réussi à faire une dictature, machin et tout, aura repiqué la nouvelle technologie des humains qu'il aura chopé à Kalima, et vu qu'il est conscient, machin et tout, et que, je sais pas, j'ai oublié 10 000 ans plus tard, en fait, bah, la fatalité, tu seras toujours coincé parce qu'un jour, t'as pas respecté le singe que t'as envoyé dans l'espace.
Ouais, c'est vrai. Mais en fait, le côté fataliste du film de 68 se retrouve aussi dans, bah oui, dans la fin du, forcément du 2001. Mais c'est surtout que le livre, loupé, en fait, il a repris le livre. Mais la fin a été altérée en fait durant la production. C'est que même quand ils ont commencé à tourner le film, ils n'avaient même pas encore la fin parce que Tim Burton voulait changer la fin. Donc pour celle-ci qu'on a eue en salle, mais il n'avait pas encore la validation. Donc il savait pas encore comment il allait finir son film au moment même de tourner. Ce qui devenait un peu complexe quand même.
Moi, ce que j'avais même compris, c'est que en gros, on peut difficilement reprocher beaucoup de choses à Tim Burton parce qu'en gros, c'est juste que la prod lui a dit t'as 5 ans pour ambition, prends-en la moitié, quoi. Et qu'à la fin, il en avait marre et qu'il avait fait une fin qui permettait de faire une suite s'ils avaient envie de faire une suite, mais voilà, quoi.
Voilà, c'est ça. Ouais, c'était une fin ouverte, justement, pour faire une suite. Ouais. Mais le truc, c'est qu'en fait, oui, la production, le problème, c'est qu'effectivement, vu que c'est un projet qui est dans les bras de la Warner, c'était de la Fox, ouais, c'était un projet de la Fox qui était de là depuis 11 ans, je crois, ils travaillaient dessus et il y a du monde qui est passé dessus. Il y avait Terry Hayes, il y avait Philip Noyce, il y avait Oliver Stone, Chris Columbus, James Cameron, Sam Raimi, Peter Jackson, ils sont passés dessus en fait. Et personne n'a réussi à trouver un accord, personne n'a réussi à trouver un truc artistique pour dire bon, bah voilà, et bah du coup, la Fox allait possiblement perdre peut-être. Les droits d'exploit ou la possibilité en fait de sécuriser le bouquin pour en faire une adaptation ou voilà pour ça en fait. Et pour le coup, bah ils ont dû lancer un petit peu, je pense, le projet quand même en mode on a une date, voilà, limite, ou on a une fenêtre de sortie qu'on veut respecter et qui était l'été 2001. Et pour le coup, en fait, le problème c'est que Tim Burton, ils l'ont pris, enfin Tim Burton a accepté le projet, mais en même temps il a changé des trucs. Et la prod a dit, bon, ok, on part sur ce budget-là, mais en même temps, il faut qu'on valide exactement le budget. Mais en même temps, ils ont commencé la production du film, du moins le tournage, parce que la pré-prod, ça commence bien avant. Mais ils ont commencé à tourner, je crois, en novembre 2000, pour une sortie, genre 6-7 mois plus tard. Quoi. Donc, gigantesque bordel pour mettre en place et tout. Et déjà, le tournage en lui-même, ça a demandé du taf, parce qu'on a parlé, effectivement, vite fait des... Et tout ce qui va être maquillage et prosthétique, ça prend un temps de malade. Il y avait 80 figurants qui étaient maquillés tous les jours en singe pour le tournage. Après, c'est quand même c'est un spécialiste, hein, qui était dessus, c'était Rick Baker, qui remplace pour le coup Stan Winston, parce que c'est souvent Stan Winston qui bossait le maquillage avec Tim Burton, mais là, il le remplace. Rick Baker, juste pour mettre, c'est celui qui a travaillé sur le remake de King Kong de 78. Et c'est pour ça qu'il a été pris d'ailleurs, c'est parce qu'il avait travaillé un petit peu le singe, et puis il avait fait le Loup-garou de Londres, dont il avait eu un prix pour ça. Il avait bossé aussi pour George Lucas pour le Nouvel Espoir, celui qui faisait les costumes et les prosthétiques aussi. Il a fait Vinodrome de Cronenberg et puis il a il a un CV de bâtard parce qu'en fait il a je crois à peu près 7 Oscars pour le maquillage, Rick ça Baker. Donc, et ça se voit parce que vraiment pour le coup en termes de maquillage et de prosthétique, le film est incroyable. Moi je trouve qu'il est imprenable là-dessus, hein. Les singes sont fous, enfin je trouve que c'est vraiment magnifique, c'est vraiment un travail d'orfèvre. Et après, lui, c'est vrai que on reconnaît la patte, ce qu'il a bossé sur le Grinch avant. Tu reconnais la patte du Grinch, tu vois comment le travail il a fait sur Jim Carrey et tout, Men in Black, le professeur, je crois que c'était, oui, c'est le professeur Folding, il a fait Ed Wood aussi, Tim Burton. Et voilà, enfin, c'est un mec qui est spécialisé là-dedans. Mais effectivement, le travail que ça demandait, par contre, était complètement fou, quoi, parce que c'est 80 personnes, les acteurs principaux, je crois qu'ils passaient quasiment une demi-journée à se faire maquiller. Passer du temps là, et c'est vrai que d'avoir ça et d'avoir une espèce de délai de production en ayant une fenêtre de tir, bah ça joue beaucoup sur l'ambiance et comment Tim Burton va essayer de diriger après la suite de son projet. Donc il y a certains trucs, effectivement, je pense que le Deus Ex Machina n'est pas pour rien par rapport à ça, qu'il a essayé de justement de dire bon, j'arrête le film ici parce que j'aurai pas le temps de faire plus. ou essayer de trouver une résolution qui soit entre guillemets plus plausible, quoi, moins putassière. Et je pense qu'il a été keblo par ça. Après, voilà, enfin, le film en lui-même, je trouve qu'il est quand même assez inégal. C'est quand même un film très burtonien, parce qu'on retrouve des trucs. Bah, tu vois, le côté que tu me parlais là du couple qui est en train de baiser, là, de façon un peu loufoque, c'est du Tim Burton. Oui. Mais on retrouve aussi cette fameuse scène, tu sais, en gros, ils sont à table et tu vois la dynamique qu'il y a dans la famille. Et t'as forcément la rebelle ado, ça va être Helena Bonham Carter qui va jouer en fait la comment on appelle la Winona Ryder en fait. La Winona Ryder de circonstances un petit peu.
C'est la scène de la famille avec des voisins.
ouais clairement. Et puis il y a des scènes, ouais, on parle du singe Périclès qui arrive à la fin, voilà. Mais déjà même le singe Périclès au début quand il lui donne des cahuètes, c'est incroyable, il a une bonhomie invraisemblable. Mais même les singes, des fois, ils sont un peu uncanny. Il y a des gamins singes, à un moment donné, qui s'en prennent à Bonham Carter en lui disant « De toute façon, t'es qu'une femme à homme. » Tu vois, qui lui balance ça, « T'es qu'une femme à homme. » C'est incroyable, parce qu'elle défend les esclaves humains. Ouais, c'est assez particulier. C'est un poil frustrant même, parce que je trouve que c'est inégal, parce que je vous parle des costumes. Je trouve que même certains set design sont très très beaux. Le marécage, par exemple, avec un clair-obscur, avec un éclairage clair-obscur, là où c'est Tim Roth qui va tuer deux de ses sbires là, de façon un peu putassière. Je trouve que c'est super bien éclairé, c'est super bien cadré. Il y a un très très beau, une très belle lumière. Mais c'est vrai que certains moments, c'est un peu tiep. À un moment donné, alors c'est pas tourné qu'en studio. Il y a le désert de Morave aussi, hein, où ils ont tourné la scène, justement la scène finale, où il y a même le campement. Là. C'est cheapos quand même. C'est vraiment cheapos. Même le village fait un peu trop. Alors, c'est inspiré du magicien d'Oz. C'est ce qu'ils ont dit sur la production. Mais je trouve que ça fait vraiment tiep. Ça fait Star Wars du pauvre. Un petit peu dans le Star Wars 6 du pauvre. Le village d'Ewok de merde. Tu vois, un petit peu. Ça faisait penser un peu à ça. Et c'est dommage parce que c'est très inégal. Alors que, généralement, ce travail de Burton dans d'autres univers ou des univers où il. Dire il est pleinement créateur, ça marche super bien. Là, l'intégration dans un univers de SF ou préétabli avec des codes, ça marche beaucoup moins bien. Mais après, est-ce qu'il n'avait pas non plus et je pense que quelque part, il a été limité par la prod, le délai de production, de faire quelque chose de plus baroque. Ça aurait été peut-être plus fun, parce que je pense qu'il y a quand même cette trace-là dans les costumes, on voit les casques des singes. Il y avait quand même quelque chose, il y avait des traces de quelque chose de plus baroque, en fait, plus burtonien, en fait, entre guillemets, quoi. Et c'est dommage parce que c'est vraiment, je sens que c'est un truc vraiment très bridé. Et c'est ça qui m'emmerde en fait dans ce film, en plus du rythme, enfin des problèmes de rythme, de scénario, tout ça qui sont vraiment longs. Tu disais la préparation paiement là pour se lancer dans l'aventure, ça prend quand même pas mal de temps. Et puis c'est pas super intéressant. Le casting humain est imblairable. Enfin Mark Wahlberg, voilà. On en a parlé énormément dans cette émission, on l'a eu quelques fois dans l'émission. Voilà, c'est toujours un peu compliqué. Mark Wahlberg, j'ai jamais trop compris l'intérêt du personnage, comme un peu Sam Worthington, on en parlait en off, mais c'est quelqu'un que ouais, j'ai du mal. Par contre, effectivement. Worthington, pardon. Mais par contre, ouais, le casting de singe est incre. Voilà, ça par contre, voilà. Et puis coup de cœur pour Paul Giamatti.
Le film devient chiant.
J'aime beaucoup.
Quand il arrête de s'intéresser, en fait. Au singe, quand il arrête de s'intéresser à ses personnages, ouais. Le film, c'est-à-dire une fois qu'ils sont quittés la cité, le film devient chiant et temporellement c'est ce qui fait le plus en fait. Mais toute cette partie et surtout la vie des singes, c'est super cool. C'est barré en vrai, je veux dire. Et si c'était resté comme ça, j'aurais accepté le côté décalé pas logique, tu vois. Mais cette partie est cool. Ouais. Mais c'est la seule partie du film qui se veut burtonienne dans l'idée, dans son traitement, dans ses thèmes, machin, etc. Mais une fois que c'est fini, et je pense que t'as raison, hein, Burton, tampon Warner. Le film devient chiant.
Manu, je te laisse continuer sur la planète des singes, l'expérience que tu as vécue, quelle est ta relation avec ça ?
Ouais, moi je suis un peu embêté parce que je suis pas d'accord avec vous sur tout, notamment sur le fait qu'il devient chiant au milieu. Moi je me suis fait chier dès le début. J'ai vraiment eu du mal à voir ce film.
Minute une, j'y étais ensemble. Pas.
Déjà il met un quart d'heure à partir de sa station spatiale sur un film.
Ah, moi c'est clin d'œil à 2001 l'Odyssée de l'espace.
Non mais vraiment j'ai eu du mal. J'ai maté une heure il y a deux jours et une heure aujourd'hui tellement j'ai même pas réussi à le lancer.
J'ai fait ça, t'inquiète.
Et le premier truc sinon sur lequel je suis pas exactement d'accord, c'est que je trouve que le seul truc bien de ce film, c'est en effet les costumes et les maquillages. J'ai cependant un problème avec les maquillages, c'est que pour moi, la plupart des acteurs, on perd une grande partie de leur jeu. Et en l'occurrence, je trouve qu'il n'y a que Tim Ross qui s'en sort bien au niveau de son maquillage, parce que Tane, on arrive à lire sur son visage, là où les autres, ils jouent qu'avec leurs yeux et avec leur posture, parce que le maquillage en enlève une grande partie, quoi. Et heureusement, on a des bons acteurs pour ça. Je trouve que les deux Benham Carter, ça passe plutôt bien, même si, franchement, si on avait les expressions de son visage à elle, ça rendrait vachement mieux. Je trouve que... Alors, il y a un truc qui est super important pour moi dans la SF, c'est de juger par rapport aux connaissances de l'époque. Et du coup, la planète des singes de 68 est vachement plus acceptable pour moi que la planète des singes de 2001, puisque j'ai l'impression dès le début déjà d'être dans le passé, quoi. J'ai l'impression, quand je vois ces expériences de l'US Air Force sur les singes, j'ai l'impression d'être dans les années 80, et pas en 2000 en fait, déjà, dans le point de départ. Parce que à l'époque, on envoie des sondes sur Mars. Je veux dire, on peut envoyer peut-être une sonde dans le petit vortex plutôt que d'entraîner les singes pour aller mourir dedans. Mais je sais pas, ça me perturbe, j'ai l'impression que il y a un prétexte de début qui tient pas déjà, le postulat de base ne marche pas. Et après... Le film passe à peu près à côté de tout ce qu'il essaye de faire. On vous avait parlé de cette espèce de... Enfin, de ce clair rappel au fatalisme des origines et de la franchise, de toute façon, avec cette fin qu'on n'arrive plus à comprendre. Et en fait, pour moi, à la fin, c'est Ted qui a fait une biftanen dans Retour vers le futur 2, quoi, et qui est venu changer le passé. Mais en fait, on est obligé d'interpréter, ça n'a pas de sens. Je ne comprends pas comment Périclès, il est arrivé deux fois, et comment ça marche dans une boucle temporelle, en fait. T'arrives pas deux fois à deux points. Et comment même Tade a pu retourner dans le passé ou quoi que ce soit. Ça ne fonctionne pas. Et là où ça fonctionne encore moins, c'est que La planète des singes, c'est une critique sociale, une critique sociétale, une critique de beaucoup de choses. L'époque de... Alors, j'ai pas lu le livre et je sais pas de quoi il traite, mais l'époque du film original, c'est milieu de guerre du Vietnam, c'est plein combat pour les droits sociaux aux États-Unis. C'est un paquet de trucs qui divise...
Guerre froide aussi,
la guerre froide. C'est un paquet de trucs qui divise la population sur plein de sujets. Et du coup, ça parle d'endoctrinement, ça parle de plein de choses comme ça. Et là, ça essaye de parler d'endoctrinement, mais on comprend pas trop pourquoi, parce qu'ils ont une doctrine, mais en fait, ils y croient que à moitié. Au final, tout ce qu'ils croient, c'est que les humains sont inférieurs, et puis voilà. Et même là-dedans, je ne vois même plus où ça marche, puisque c'est un cas, pour moi, qui est assez récurrent de racisme en essayant de dénoncer le racisme. Puisque en mélangeant les...
Green Book un petit peu, quoi.
Ouais, à l'époque, dans les années 70, clairement, il y avait un combat racial, donc ça en parlait. C'est toujours d'actualité aujourd'hui, et c'est toujours d'actualité en 2001, certainement, mais la façon d'en parler, c'est plus la même. Et là, j'ai vraiment l'impression, non seulement qu'ils mélangent, parce que si on prend les plus récents, on a plus une critique du traitement des animaux, de la nature.
Oui, attention,
on va générer des virus, des choses comme ça, et il ne faut pas de mal traiter les animaux. Mais là, on a un mélange entre le traitement des animaux et le traitement des esclaves. Et du coup, on fait une métaphore inversée où, du coup, les blancs se retrouvent à la place des esclaves, et les esclaves, c'est des singes. Désolé, le accidentellement raciste, mais là, franchement, les gars,
c'est vrai.
Je l'avais pas bien vu.
Et en plus, t'en parlais tout à l'heure, Karim, mais y a un côté orientalisant ou des choses comme ça dans le comportement des singes quand ils ne se comportent pas en tant que singes, donc c'est d'autant plus raciste, puisque du coup, le côté spéciste et aussi, y a un côté raciste de la même façon que spéciste dans le film. Mais du coup, ça me laisse hyper perplexe. Et je pense que c'est en effet cette espèce de mélange des ambiances Burton avec un truc qui se veut sérieux. Là, du coup, ça tombe un petit peu à côté de la plaque, puisque cette espèce de caricature de la famille qu'on a vue dans plein de Burton, en effet, ça marche plus, et comme tu le disais, Karim, tout à l'heure, on n'arrive pas à comprendre pourquoi ces singes, qui sont du coup une métaphore des Blancs, sont quand même pas aussi avancés que les Blancs, parce qu'ils sont limités par leur capacité de singe, a priori, et pourtant, quand t'as eu de retour dans le passé, ils ont des voitures de police, c'est quand même marqué 911 dessus, ils ont des fusils qui sont totalement humains, enfin... Des singes inventeraient d'autres fusils, d'ailleurs. Ils n'ont pas les mêmes mains, ils n'ont pas les mêmes bras. La fin est totalement débile là-dessus. Mais du coup, je sais pas, je trouve que le film, il s'en vautre. il se vautre dans un... dans un ratage total de... dans le fait d'être totalement à côté de la plaque, surtout. Et... vous en avez parlé, mais Mark Wahlberg, catastrophe. C'est aussi bien au niveau de l'acting que du personnage. Oui. Le personnage est détestable du début à la fin, en fait. comme le disait Will Stitch dans le chat, à la fin, il abandonne même Estelle Warren, genre...
Oui, ouais. Salut.
Non, je suis pas votre sauveur. Occupez-vous des singes. Moi, je repars sur ma planète. Et puis voilà, quoi. Mais non, je trouve... À part, ouais, les costumes, tout m'a un petit peu énervé. Tout était un petit peu chiant dans l'intrigue. Je sais pas, je trouve que c'est une vraie catastrophe. Jamais je serais retourné vers une suite où qui reprenait après cette fin en plus. Enfin, je sais pas.
Ah, je sais pas. Moi, j'aurais dit oui quand même. Je sais pas. Non, mais en vrai, je sais pas.
Imagine, il aurait fait un Batman avec les singes.
Ouais, voilà, ouais, un truc comme ça. Ouais, ça aurait été rigolo. Le film donc a coûté 100 millions de dollars de budget. Il en a rapporté quand même 491 millions. En total avec le chiffre vidéo et 4 millions d'entrées en France hein, quand même d'ailleurs le film hein, c'est pas rien. Alors c'est pas un échec le film, vraiment pas, mais c'est vraiment un échec par contre critique, presse et spectateurs, c'est à dire que beaucoup de monde se sont déplacés pour aller voir mais beaucoup de personnes ont détesté le film quoi, en fait, et pour le coup effectivement ça a coupé la chic pour faire un second film quoi, notamment et puis Burton n'était pas chaud de toute façon pour se remettre dedans, mais je pense qu'il aurait bon, bref, ça aurait eu un autre réal, mais dans tous les cas ça a vraiment coupé l'envie à la Fox de se lancer dessus. On a donc après le reboot de c'est en 2011 hein, que La Planète des Singes, le commencement, revient après. Et Mark Wahlberg, d'ailleurs, disait que en fait, il était encore très... il était très attaché au projet de La Planète des Singes de 2001. Il trouvait que c'était un film incroyable, mais qu'on n'a pas laissé, en fait, la possibilité à Burton de vraiment faire le nécessaire. Et que, voilà, c'était intolérable de la part de la Fox d'avoir reboot. Voilà, c'est nul. Enfin, bref, problème comme ça. Alors, est-ce que Mark Wahlberg avait raison, pour le coup? Parce que, est-ce que le film mérite la shitlist? Et je vais te poser la question à Manu.
Oui, 100 fois oui. Ouais.
100 fois oui. Karim, de ton côté?
Ah oui, parce que c'est même pas un bon cas d'école pour expliquer quoi que ce soit. Je veux dire, parce que le drame du film où Burton a eu les mains liées par un studio, oui, hein, je veux dire, c'est pas cool, hein, c'est pas un souci, mais voilà, mais pas bien. Et ouais, et je pense qu'il y a un peu de revanche de ma part aussi de la redécouverte d'hier, donc shitlist, voilà. Shitlist honorable, shitlist honorable parce que Deus Ex Machina, quand même, voilà.
Voilà, ouais, il faut pas l'oublier.
De toute façon, comme Luc l'a dit, le film est sorti pour garder des droits, quoi. Donc, quand le prétexte même à faire un film, à sortir un film, c'est de garder des droits, l'intérêt est faible.
Pas fou, effectivement. Donc, le film va directement dans la shitlist. Merci Manu, merci Karim, merci le chat d'être resté jusqu'au bout et merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Alors, petit programme, donc là, le début de la fin, on sort Ugly Betty, donc qui est déjà sorti, mais que vous pouvez écouter. Il y a l'hors série sur le début de la fin qu'on va faire, nos premiers numéros hors série officiels, qui est sur la série Fallout, justement, l'adaptation du jeu vidéo. On va faire aussi, alors là, je voulais parler justement, il y a le contenu shitlist qui se diversifie, on va dire, puisqu'on a Marvin qui est un auteur. Hein, je vous rappelle, hein, qui écrit des choses et qui est sans rédaction fixe actuellement et qui donc écrit sur le Patreon. Il a sorti le premier article qui est sur la carrière de Joseph Kahn, le réalisateur, le grand réalisateur de Torquay, La Route sans flamme. Voilà, donc c'est un papier qui est exclusif justement à nos patriotes. Et aussi, on aura un épisode bonus qui va débarquer cette semaine. Ce sera entre moi et Marvin justement un podcast bonus sur la série Shogun, notre retour sur cette série magnifique avec une très bonne fin, vraiment ça a été une très bonne série de bout en bout, pas de mauvaise surprise hein, parce que c'est vrai qu'on a vu cette malédiction de dire ah il y a cette série qui a commencé qui est vachement bien qui se finit en voilà, vous savez voilà donc non c'était une très bonne série et vous aurez un épisode dessus, un récap et voilà, c'est assez intéressant à parler de cette série parce qu'elle a vraiment quelque chose de particulier en fait dans la façon dont elle décrit les choses et dans la façon dont elle respecte quasiment religieusement en fait la culture japonaise quoi. c'est assez fort. Voilà donc soutenez-nous sur Patreon hein, le forfait 3€ chez Shitlist Prime pour avoir l'épisode en avance sans coupure, le forfait à 5€ chez Shitlist Plus puis d'avoir l'épisode en avance et les contenus exclusifs. Alors les papiers qu'on écrira, parce qu'il n'y aura pas que Marvin, il y aura d'autres personnes qui voudront voilà, dès qu'il y aura quelqu'un qui veut écrire il publiera sur le Patreon différents sujets hein, c'est film, jeux vidéo, séries, ça peut être tout hein. Ce sera disponible à partir du forfait Shitlist Prime, donc 3€ par mois. On remercie notre nouveau donateur cette semaine, FWDDD, qui a rejoint la famille Shitlist Prime. Et bien sûr, le forfait à 10€, le Hall of Fame, donc, qui permet d'avoir la sticker et tous les bonus cités. Et ce remerciement éternel. Alors, on remercie Sebnatch, Willy Stitch, Jérémy Courtemanche, Jonathan Cassès, Aurel Bauer et The Grief Keeper. Et on se retrouve la semaine prochaine, donc lundi, exceptionnellement en live, mais toujours lundi, voilà, sur vos applis de podcast. On fait Gods of Egypt avec Marvin et Stéphane Boulet en invité, voilà, du grand cinéma. Ça fait plaisir de parler d'Alex Proyas dans ce qu'il a fait de mieux. Shitlistpodcast@gmail.com pour le SAV. Rejoignez-nous sur Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok et sur notre Discord également pour vous pouvez balancer vos meilleurs takes. Notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD. Et on n'oublie pas également de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify et toutes vos applis de podcast. Hein. Effectivement, ça nous fait plaisir, ça nous met du baume au cœur. Voilà. Et n'hésitez pas du coup à écouter aussi les autres podcasts. Hein. Le coin pop, le coin lecture, le début de la fin, les archives, rewind, noobs, les bordels comme ça qu'on a sortis comme ça qui étaient absolument nuls. Mais incroyable quand même, tout de même.
C'est pas nul.
Ah non, mais c'était, il y avait ce côté frais. Ah. C'était une autre époque, mais il y avait ce
le
côté
garage,
frais qu'on a perdu. Mais il y avait ce côté, voilà, il y avait ce côté roots qu'on a perdu dans cette
émission. Il n'y avait pas de business encore.
Cet esprit de bon enfant, il n'y a plus rien, de toute façon, ici. Tu de l'argent, tu de la fame.
Un jour, si on a plus d'idées, on pourra faire Shitlist Archives où on écoute nos anciens épisodes dans les commentaires.
On se chronique.
Tu sais que ça, c'est.
On se chronique.
Mais non, mais alors ça, les gars, ça, c'est des idées pour les live Twitch cet été. Tu veux faire des live Twitch à la con?
Secondaire.
Ça cet été c'est incroyable. Ah ouais ça c'est fou, c'est incroyable, très très bien. Et ben écoutez, on se dit à la semaine prochaine et salut à tous, ciao ciao
ciao tout le monde.